Chapitre 13. La race maudite. Tous les jours, après le déjeuner, un gros et grand monsieur à la démarche dandinée, aux moustaches teintes, toujours une fleur à la boutinière, le marquis de Quercey. Il traversait la cour et allait voir sa sœur Guermantes. Je ne crois pas qu'il sût que nous habitions dans la maison. En tout cas, je n'eus pas l'occasion de le rencontrer. J'étais souvent à la fenêtre à l'heure où il venait. Mais à cause des volets, il ne pouvait me voir, et d'ailleurs, il ne levait jamais la tête. Sa vie était extrêmement réglée. Il voyait les Guermantes tous les jours de 1 à 2 heures, montait chez madame Villeparisis jusqu'à 3, puis allait au club faire différentes choses, et le soir allait au théâtre, quelquefois dans le monde, mais jamais chez les Guermantes le soir, excepté les jours de grandes soirées qui étaient rares, et où il faisait tard une courte apparition. La poésie qu'avait perdue par la fréquentation le comte et la comtesse de Guermantes s'était reportée pour moi sur le prince et la princesse de Guermantes. Bien qu'à ses proches parents, comme je ne les connaissais pas, ils étaient pour moi le nom de Guermantes. Je les avais entrevus chez les Guermantes et ils m'avaient fait un vague salut de gens qui n'ont aucune raison de vous connaître. Mon père, qui passait tous les jours devant leur hôtel, rue de Solferino, disait « C'est un palais de contes de fées ». De sorte que cela s'était amalgamé pour moi avec les féeries incluses dans le nom de Guermantes, avec Geneviève de Brabant, la tapisserie où avait posé Charles VIII et le vitrail de Charles le Mauvais. La pensée que je pouvais être un jour lié avec eux ne me serait même pas entrée dans l'esprit quand un jour j'ouvris une enveloppe. Le prince et la princesse de Guermantes seront chez eux le... Il y semblait qu'un plaisir intact, non dégradé par aucune idée humaine, aucun souvenir matériel de fréquentation, qui rend les choses pareilles aux autres, m'était offert sur cette carte. Encore plein de ces belles images qu'aucun souvenir terrestre n'abaissait, c'était un palais de contes de fées qui, par le fait de cette carte reçue, devenait un objet de possession possible, de par une sorte de prédilection flatteuse du nom mystérieux pour moi. Cela me sembla trop beau pour être vrai. Il y avait entre l'intention qu'il exprimait, l'offre que manifestait l'adresse, mais ce nom, aussi l'abdouce et fier, un trop grand contraste. L'hôtel de contes de fées s'ouvrant de lui-même devant moi, moi, étant invité à me mêler aux êtres de légende, de lanternes magiques, de vitrail et de tapisserie qui faisaient pendre haut et court au IXe siècle, ce nom fier de Guermantes semblait s'animer, me connaître, se tendre vers moi, puisqu'enfin, c'était bien mon nom et superbement écrit, qui était sur l'enveloppe, tout cela me parut trop beau pour être vrai, et j'eus peur que ce fût une mauvaise plaisanterie que quelqu'un m'avait faite. Les seules personnes auprès de qui j'eusse pu me renseigner auraient été nos voisins Guermantes, qui étaient en voyage, et dans le doute, j'aimais mieux ne pas aller chez eux. Il n'y avait pas à répondre, il n'y aurait eu qu'à mettre des cartes, mais je craignais que ce ne fût déjà trop, si comme je le pensais j'étais victime d'une mauvaise farce. Je le dis à mes parents qui ne comprirent pas ou trouvèrent mon idée ridicule. Avec cette espèce d'orgueil que donne l'absence entière de vanité et de snobisme, ils trouvaient la chose du monde la plus naturelle que les Guermantes m'eussent invité. Ils n'attachaient aucune importance à ce que j'y allasse ou n'y allasse pas, mais ne voulaient pas que je m'habitue à croire qu'on voulait me faire des farces. Ils trouvaient plus aimable d'y aller, mais d'ailleurs indifférent, trouvant qu'il ne fallait pas s'attribuer d'importance et que mon absence serait inaperçue, mais que d'autre part, ces gens n'avaient pas de raison de m'inviter si cela ne leur avait pas fait plaisir de m'avoir. D'autre part, mon grand-père n'était pas fâché que je lui dise comment cela se passait chez les Guermantes, depuis qu'il savait que la princesse était la petite-fille du plus grand homme d'État de Louis XVIII, et papa de savoir si, comme il le supposait, cela devait être superbe à l'intérieur. Bref, le soir même, je me décidai. On avait pris de mes affaires un soin particulier. Je voulais me commander une boutonnière chez le fleuriste, mais ma grand-mère trouvait qu'une rose de jardin serait plus naturelle. Après avoir marché sur un massif en pente, et en piquant mon habit aux épines des autres, je coupai la plus belle, et je sautai dans l'omnibus qui passait devant la porte, trouvant plus de plaisir encore que d'habitude à être aimable avec le conducteur et à céder ma place à l'intérieur à une vieille dame, en me disant que ce monsieur qui était si charmant avec eux et qui dirait « Arrêtez-moi au pont de Solferino ». Sans qu'on sût que c'était pour aller chez la princesse de Guermantes, avait une belle rose sous son par-dessus, dont le parfum montait invisible à sa narine, pour le charmer comme un secret d'amour. Mais une fois au pont de Solferino, où tout le quai était encombré d'une file stationnante et mouvante de voitures, une parfois se détachant et des valets de pied courant avec des manteaux de soie claire sur le bras, ma peur me reprit. C'était sûrement une farce. Et quand j'arrivai au moment d'entrer, entendant qu'on annonçait les invités, j'eus envie de redescendre, mais j'étais pris dans le flot et ne pouvais plus rien faire, distrait d'ailleurs par la nécessité d'avoir à enlever mon pardessus, prendre un numéro, jeter ma rose qui s'était déchirée sous mon pantelot et dont l'immense tige verte était tout de même trop naturelle. Je murmurai mon nom à l'oreille de l'huissier dans l'espoir qu'il m'annonçât aussi bas, mais au même moment j'entendis avec un bruit de tonnerre mon nom retentir dans les salons Guermantes qui étaient ouverts devant moi, et je sentis que l'instant du cataclysme était arrivé. Huxley raconte qu'une dame qui avait des hallucinations avait cessé d'aller dans le monde parce que, ne sachant jamais si ce qu'elle voyait devant elle était une hallucination ou un objet réel, elle ne savait comment agir. Enfin, son médecin, après 12 ans, la força d'aller au bal. Au moment où on lui tend un fauteuil, elle voit un vieux monsieur assis dedans. Elle se dit « Il est inadmissible qu'on me dise de m'asseoir dans le fauteuil où est le vieux monsieur. Donc ou bien le vieux monsieur est une hallucination ?» Et il faut m'asseoir dans ce fauteuil qui est vide, ou c'est la maîtresse de maison qui me tend ce fauteuil qui est une hallucination. Il ne faut pas que je m'asseye sur le vieux monsieur. Elle n'avait qu'une seconde pour se décider. Et pendant cette seconde, comparait le visage du vieux monsieur et celui de la maîtresse de maison qui lui paraissent tous deux aussi réels, sans qu'elle pût penser que c'était l'un ou l'autre qui était l'hallucination. Enfin, vers la fin de la seconde qu'elle avait pour se décider, elle crut à je ne sais quoi, que c'était plutôt le vieux monsieur qui était une hallucination. Elle s'assit. Il n'y avait pas de vieux monsieur, elle poussa un immense soupir de soulagement et fut à jamais guérie. Si pénible que dut certainement être la seconde de la vieille dame malade devant le fauteuil, elle ne fut peut-être pas plus anxieuse que la mienne quand, à l'orée des salons de Guermantes, j'entendis, lancé par un huissier gigantesque comme Jupiter, mon nom voler comme un tonnerre obscur et catastrophique. Et quand, tout en m'avançant d'un air naturel, pour ne pas laisser croire par mon hésitation, s'il y avait mauvaise farce de quelqu'un, que j'en étais confus, je cherchais des yeux le prince et la princesse de Guermantes, pour voir s'ils allaient me faire mettre à la porte. Dans le brouhaha des conversations, ils n'avaient pas dû entendre mon nom. La princesse en robe mauve, princesse, un magnifique diadème de perles et de saphirs dans les cheveux, causait sur une causeuse avec des personnes, étendait la main, sans se lever aux entrants. Quant au prince, je ne vis pas où il était. Elle ne m'avait pas encore vu. Je me dirigeais vers elle, mais en le regardant avec la même fixité que la vieille dame regardait le vieux monsieur sur lequel elle allait s'asseoir, car je suppose qu'elle devait faire attention pour, dès qu'elle sentirait sous son corps la résistance des genoux du monsieur, ne pas insister sur l'acte de s'asseoir. Ainsi j'épiai sur le visage de la princesse de Guermantes, dès qu'elle m'aurait aperçu, la première trace de la stupeur et de l'indignation pour abréger le scandale et filer au plus vite. Elle m'aperçoit. Elle se lève. Alors qu'elle ne se levait pour aucun invité, elle vient vers moi. Mon cœur tremble, mais se rassure en voyant ses yeux bleus briller du plus charmant sourire et son long gant de Suède en courbe gracieuse se tendre vers moi.
« Comme c'est aimable d'être venu. Je suis ravi de vous voir.
Quel malheur que nos cousins soient justement en voyage.
Mais c'est d'autant plus gentil à vous d'être venu comme cela. Nous savons que c'est pour nous seuls.
Tenez, vous trouverez monsieur de Guermantes dans ce petit salon. Il sera charmé de vous voir. » Je m'inclinai avec un profond salut et la princesse n'entendit pas mon soupir de soulagement. Mais ce fut celui de la vieille dame devant le fauteuil quand elle se fut assise et vit qu'il n'y avait pas de vieux monsieur. Dès ce jour, je fus à tout jamais guéri de ma timidité. J'ai peut-être reçu depuis bien des invitations plus inattendue ou plus flatteuse que celle de monsieur et madame de Guermantes. Mais les tapisseries de Combray, la lanterne magique, les promenades du côté de Guermantes ne leur donnaient pas leur prestige. J'ai toujours compté sur le sourire de bienvenue et n'ai jamais compté avec la mauvaise farce. Mais elle se fut produite que cela m'aurait été tout à fait égal. Monsieur de Guermantes recevait très bien, trop bien, car dans ces soirées où il recevait le banc et l'arrière-banc de la noblesse, et où venaient des nobles de second ordre de province, pour qui il était un très grand seigneur, il se croyait obligé, à force de rondeur et de familiarité, de main sur l'épaule, et du ton bon garçon de « Ce n'est pas amusant chez moi ?» ou de « Je suis très honoré que vous soyez venu. de dissiper chez tous la gêne, la terreur respectueuse qui n'existait pas au degré qu'il le supposait. À quelques pas de lui, causait avec une dame le marquis de Quercy. Il ne regardait pas de mon côté, mais je sentis que ses yeux de marchand en plein vent m'avaient parfaitement aperçu. Il causait avec une dame que j'avais vue chez les Guermantes. Je le saluai d'abord, ce qui interrompit forcément monsieur de Quercy, mais malgré cela, déplacé et interrompu, il regardait d'un autre côté absolument comme s'il ne m'eût pas vu. Non seulement il m'avait vu, mais me voyait, car dès que je me tournais vers lui pour le saluer, tâchant d'attirer l'attention de son visage souriant d'un autre côté du salon et de ses yeux épiant la rousse, il me tendit la main et n'eut qu'à utiliser pour moi sans bouger son sourire disponible et son regard vacant que je pouvais prendre pour une amabilité pour moi, puisqu'il me disait bonjour de sa main libre, si je ne lui avais pas dit bonjour, ou pour l'expression de n'importe quelle pensée aimable ou ironique à l'endroit d'un autre, ou simplement gai, si j'avais pensé qu'il ne m'eût pas vu. J'avais serré le quatrième doigt, qui semblait regretter dans une inflexion mélancolique, que l'anneau d'archevêque, j'étais pour ainsi dire entré par effraction dans son bonjour incessant et sans acception de personne. Je ne pouvais pas dire qu'il m'avait dit bonjour. J'aurais pu à la rigueur penser qu'il ne m'avait pas vu ou pas reconnu. Il se remit à parler avec son interlocutrice, et je m'éloignai. On joua une petite opérette pour laquelle on n'avait pas invité de jeune fille. Il en vint après, et on dansa. Le comte de Quercy s'était assoupi, ou du moins fermé les yeux. Depuis quelque temps, il était fatigué, très pâle. Malgré la moustache noire et les cheveux gris frisés, on le sentait vieux, mais restait très beau. Et ainsi, le visage blanc, immobile, noble, sculptural, sans regard, il m'apparut tel qu'après sa mort, sur la pierre de son tombeau dans l'église de Guermantes. Il me semblait qu'il était sa propre figure funéraire, et que son individu était mort, et que je ne voyais que le visage de sa race, ce visage que le caractère de chacun avait transformé, avait aménagé à ses besoins personnels, les uns intellectualisés, les autres rendus plus grossiers comme la pièce d'un château qui, selon le goût du châtelain, a été tour à tour d'études ou d'escrime. Il m'apparaissait ce visage, bien délicat, bien noble, bien beau. Ses yeux se rouvraient, un vague sourire qu'il n'eut pas le temps de rendre artificiel flotta sur son visage, dont j'étudiais en ce moment, sous les cheveux défaits, en mèche, l'ovale du front et les yeux. Sa bouche s'entr'ouvrit, son regard brilla au-dessus de la ligne noble de son nez, sa main délicate releva ses cheveux, et je me dis « Pauvre monsieur de Quercy, qui aime tant la virilité, s'il savait l'air que je trouve à l'être lasse et souriant que j'ai devant moi, on dirait que c'est une femme. » Mais au moment même où je prononçais ces mots en moi-même, il me sembla qu'une révolution magique s'opérait en monsieur de Quercy. Il n'avait pas bougé, mais tout d'un coup, il s'éclairait d'une lumière intérieure, où tout ce qui m'avait chez lui choqué, troublé, semblait contradictoire, se résolvait en harmonie. Depuis que je venais de me dire ces mots, on dirait une femme. J'avais compris, c'en était une, c'en était une. Il appartenait à la race de ces êtres contradictoires, en effet, puisque leur idéal est viril, justement parce que leur tempérament est féminin, qui vont dans la vie à côté des autres en apparence, mais portant avec eux en travers ce petit disque de la prunelle où notre désir est installé et à travers lequel nous voyons le monde, le corps non d'une nymphe, mais d'un éphèbe qui vient projeter son ombre virile et droite sur tout ce qu'ils regardent et tout ce qu'ils font. Race maudite, puisque ce qui est pour elle l'idéal de la beauté est l'aliment du désir et aussi l'objet de la honte et la peur du châtiment, et qu'elle est obligée de vivre jusque sur les bancs du tribunal où elle vient comme accusée et devant le Christ, dans le mensonge et dans le parjure, puisque son désir serait en quelque sorte, si elle savait le comprendre, inadmissible, puisque n'aimant que l'homme qui n'a rien d'une femme, l'homme qui n'est pas homosexuel, ce n'est que de celui-là qu'elle peut assouvir son désir, qu'elle ne devrait pas pouvoir éprouver pour lui, qu'il ne devrait pas pouvoir éprouver pour elle, si le besoin d'amour n'était pas un grand trompeur et ne lui faisait pas de la plus infâme tente l'apparence d'un homme, d'un vrai homme comme les autres, qui, par miracle, se serait pris d'amour ou de condescendance pour lui, puisque comme les criminels, elle est obligée de cacher son secret à ceux qu'elle aime le plus, craignant la douleur de sa famille, le mépris de ses amis, le châtiment de sa race. Race maudite, persécutée comme Israël,
et comme lui ayant fini dans l'opprobre commun d'une abjection imméritée, par prendre des caractères communs, l'air d'une race, ayant tous certains traits caractéristiques, des traits physiques qui souvent répugnent, et qui quelquefois sont beaux, des cœurs de femmes aimants et délicats, mais aussi une nature de femme soupçonneuse et perverse, coquette et rapporteuse, des facilités de femme à briller à tout, une incapacité de femme à exceller en rien, exclue de la famille, avec qui ils ne peuvent rien en entière confidence, de la patrie, aux yeux de qui ils sont des criminels non découverts, de leurs semblables eux-mêmes, à qui ils inspirent le dégoût de retrouver en eux-mêmes l'avertissement que ce qu'ils croient un amour naturel est une folie maladive, et aussi cette féminité qui leur déplaît, mais pourtant, cœur aimant, exclue de l'amitié parce que leurs amis pourraient soupçonner autre chose que de l'amitié quand ils n'éprouvent que de la pure amitié pour eux, et ne les comprendraient pas s'ils leur avouaient quand ils éprouvent autre chose, objet tantôt d'une méconnaissance aveugle qui ne les aime qu'en ne les connaissant pas, tantôt d'un dégoût qui les incrimine dans ce qu'ils ont de plus pur, tantôt d'une curiosité qui cherche à les expliquer et les comprend tout de travers, élaborant à leur endroit une psychologie de fantassin qui, même en se croyant impartiale et encore tendancieuse, et admet a priori, comme ces juges pour qui un juif était naturellement un traître, qu'un homosexuel est facilement un assassin, comme Israël encore recherchant ce qui ne serait pas d'eux, mais éprouvant pourtant les uns pour les autres sous l'apparence des médisances, des rivalités, des mépris du moins homosexuel pour le plus homosexuel comme du plus déjudaïsé pour le petit juif, une solidarité profonde dans une sorte de franc-maçonnerie qui est plus vaste que celle des juifs, parce que ce qu'on en connaît n'est rien et qu'elle s'étend à l'infini, et qui est autrement puissante que la franc-maçonnerie véritable parce qu'elle repose sur une conformité de nature, sur une identité de goût, de besoin, pour ainsi dire de savoir et de commerce, en voiture, dans le voyou, qui lui ouvre la portière, ou plus douloureusement parfois, dans la fiancée de sa fille, et quelquefois, avec une ironie amère, dans le médecin par qui il veut faire soigner son vice, dans l'homme du monde, qui lui met une boule noire au cercle, dans le prêtre à qui il se confesse, dans le magistrat civil ou militaire chargé de l'interroger, dans le souverain qui le fait poursuivre, radotant sans cesse avec une satisfaction constante ou irritante, que Caton était homosexuel, comme les juifs que Jésus-Christ était juif, sans comprendre qu'il n'y avait pas d'homosexuel à l'époque où l'usage et le bon ton étaient de vivre avec un jeune homme comme aujourd'hui, d'entretenir une danseuse. Ou Socrate, l'homme le plus moral qui fut jamais, fit sur deux jeunes garçons assis l'un près de l'autre des plaisanteries toutes naturelles, comme on fait sur un cousin et sa cousine qui ont l'air amoureux l'un de l'autre, et qui sont plus révélatrices d'un état social que de théories qui pourraient lui être que personnelles. De même qu'il n'y avait pas des juifs avant la crucifixion de Jésus-Christ, si bien que, pour originel qu'il soit, le péché a son origine historique dans la conformité survivant à la réputation. Mais, prouvant alors par sa résistance à la prédication, à l'exemple, au mépris, au châtiment de la loi, une disposition que le reste des hommes sait si forte et si innée qu'elle leur répugne davantage que des crimes qui nécessitent une lésion de la moralité, car ces crimes peuvent être momentanés et chacun peut comprendre l'acte d'un voleur, d'un assassin, mais non d'un homosexuel, parti donc réprouvé de l'humanité, mais membre pourtant essentiel, invisible, innombrable de la famille humaine, soupçonné là où il n'est pas, étalé, insolent, impuni là où on ne le sait pas, partout dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au théâtre, au bagne, sur le trône, se déchirant et se soutenant, ne voulant pas se connaître, mais se reconnaissant et devinant un semblable dont surtout il ne veut pas s'avouer de lui-même, encore moins être su des autres, qu'il est le semblable vivant dans l'intimité de ceux que la vue de son crime, si un scandale se produisait, rendrait, comme la vue du sang, féroce comme des fauves, mais habitué comme le dompteur en les voyant pacifiques avec lui dans le monde à jouer avec eux. À parler homosexualité, à provoquer leur grognement si bien qu'on ne parle jamais tant homosexualité que devant l'homosexuel, jusqu'au jour infaillible où tôt ou tard il sera dévoré, comme le poète reçu dans tous les salons de Londres, poursuivi lui et ses œuvres, lui ne pouvant trouver un lit où reposer, elle une salle où être joué. Et après l'expiation et la mort, voyant s'élever sa statue au-dessus de sa tombe, obligé de travestir ses sentiments, de changer tous ses mots, de mettre au féminin ses phrases, de donner à ses propres yeux des excuses à ses amis, à ses colères, plus gênées par la nécessité intérieure et l'ordre impérieux de son vice de ne pas croire en proie à un vice que par la nécessité sociale de ne pas laisser voir ses goûts, race qui met son orgueil à ne pas être une race, à ne pas différer du reste de l'humanité, pour que son désir ne lui apparaisse pas comme une maladie, leur réalisation même comme une impossibilité, ses plaisirs comme une illusion, ses caractéristiques comme une tare, de sorte que les pages, les premières, je peux le dire, depuis qu'il a des hommes qui écrivent, qu'on lui est consacré dans un esprit de justice pour ses mérites moraux et intellectuels, qui ne sont pas, comme on dit, enlaidis en elle, de pitié pour son infortune innée et pour ses malheurs injustes, seront celles qu'elle écoutera avec le plus de colère, et qu'elle lira avec le sentiment le plus pénible, car si au fond de presque tous les juifs il y a un antisémite qui flatte, plus en lui, trouvant tous les défauts, mais en le considérant comme un chrétien, au fond de tout homosexuel, il y a un anti-homosexuel à qui on ne peut pas faire de plus grandes insultes que de lui reconnaître les talents, les vertus, l'intelligence, le cœur, et en somme, comme à tout caractère humain, le droit à l'amour sous la forme où la nature nous a permis de le concevoir, si cependant, pour rester dans la vérité, on est obligé de confesser que cette forme est étrange, que ces hommes ne sont pas pareils aux autres. Parfois, dans une gare, dans un théâtre, vous en avez remarqué de ces êtres délicats, au visage maladif, à l'accoutrement bizarre, promenant d'un air d'apparat sur une foule qui leur serait indifférente des regards qui cherchent en réalité s'ils n'y rencontreront pas l'amateur difficile à trouver du plaisir singulier qu'ils offrent. Et pour qui la muette investigation qu'ils dissimulent sous cet air de paresse lointaine serait déjà un signe de ralliement. La nature, comme elle fait pour certains animaux, pour certaines fleurs, en qui les organes de l'amour sont si mal placés qu'ils ne trouvent presque jamais le plaisir, ne les a pas gâtés sous le rapport de l'amour. Sans doute, l'amour n'est pour aucun être absolument facile. Il exige la rencontre d'êtres qui souvent suivent des chemins différents. Mais pour cet être à qui la nature fut si, lacune dans le manuscrit, la difficulté est centuplée. L'espèce à laquelle il appartient est si peu nombreuse sur la terre qu'il a des chances de passer toute sa vie sans jamais rencontrer le semblable qu'il aurait pu aimer. Il le faudrait de son espèce, femme de nature pour pouvoir se prêter à son désir, homme d'aspect pourtant pour pouvoir l'inspirer. Il semble que son tempérament soit construit de telle manière, si étroit, si fragile, que l'amour, dans des conditions pareilles, sans compter la conspiration de toutes les forces sociales unanimes qui le menacent, et jusque dans son cœur le scrupule et l'idée du péché, soit une impossible gageure. Ils la tiennent pourtant, mais le plus souvent, se contentant d'apparences grossières, et faute de trouver non pas l'homme-femme, mais la femme-homme qu'il leur faut, ils achètent d'un homme des faveurs de femme, ou par l'illusion dont le plaisir finit par embellir ce qui le procure, trouvent quelque charme viril aux êtres tout efféminés qui les aiment. Quelques-uns, silencieux et merveilleusement beaux, Andromède admirable attaché à un sexe qui les vouera à la solitude, reflètent dans leurs yeux la douleur de l'impossible paradis avec une splendeur où viennent se brûler les femmes qui se tuent pour eux. Et odieux à ceux dont ils recherchent l'amour, ne peuvent contenter celui que leur beauté éveille. Et en d'autres encore, la femme est presque à demi sortie. Ses seins sortent, ils cherchent les occasions de se travestir pour les montrer, aiment la danse, la toilette, le rouge comme une fille, et dans la réunion la plus grave, pris de folie, se mettent à rire et à chanter. Je me souviens d'avoir vu à Querqueville un homme garçon dont ses frères et ses amis se moquaient, qui se promenait seul sur la plage. Il avait une figure charmante, pensive et triste sous de longs cheveux noirs dont il avait l'éclat, en y répandant en secret une sorte de poudre bleue. Bien qu'il prétendît que ce fût leur couleur naturelle, il rougissait légèrement ses lèvres au carmin. Il se promenait pendant des heures seul sur la plage, s'essayait sur les rochers et interrogeait la mer bleue d'un œil mélancolique, déjà inquiet et insistant, se demandant si dans ce paysage de mer et de ciel d'un léger azur, le même qui brillait déjà au jour de Marathon et de Salamine, il n'allait pas voir s'avancer sur une barque rapide et l'enlever avec lui l'Antinoüs dont il rêvait tout le jour. Et la nuit, à la fenêtre de la petite villa,
où le passant attardé l'observait au clair de lune, regardant la nuit, et rentrant vite quand on l'avait aperçu. Trop pur encore pour croire qu'un désir pareil au sien pût exister ailleurs que dans les livres, ne pensant pas que les scènes de débauche que nous lui assimilions aient un rapport quelconque avec lui, les mettant au même niveau que le vol et l'assassinat, retournant toujours à son rocher, regarder le ciel et la mer, ignorant le port où les matelots sont contents, pourvu que de quelque manière que ce soit, ils gagnent un salaire. Mais son désir inavoué se manifestait dans l'éloignement de ses camarades, ou dans l'étrangeté de ses paroles et de ses façons, quand il était avec eux. Ils essayaient son rouge, plaisantaient sa poudre bleue, sa tristesse. Et en pantalon bleu et en casquette marine, il se promenait mélancolique et seul, consumé de langueur et de remords. Tout jeune, quand ses camarades lui parlaient des plaisirs qu'on avait avec des femmes, il, une note de Proust indique, le marquis de Quercy, se serrait contre eux, croyant seulement communier avec eux dans le désir des mêmes voluptés. Plus tard, il sentit que ce n'étaient pas les mêmes. Il le sentait, mais ne l'avouait pas. Ne se l'avouait pas. Les soirs sans lune, il sortait de son château du Poitou, suivant le chemin qui conduit à la route par où on va au château de son cousin Guy de Gressac. Il le racontait à la croix des deux chemins sur un talus. Il répétait les jeux de leur enfance et se quittait sans avoir prononcé une parole, sans s'en reparler jamais pendant les journées où ils se voyaient et causaient, ou gardant plutôt l'un contre l'autre une sorte d'hostilité, mais se retrouvant dans l'ombre, de temps à autre, muets, comme des fantômes de leur enfance qui se seraient visités. Mais son cousin, devenu prince de Guermantes, avait des maîtresses et n'était pris que rarement du bizarre souvenir. Et M. de Quercy revenait souvent après des heures d'attente sur le talus, le cœur gros. Puis son cousin se maria, et il ne le vit plus que comme homme causant et riant, un peu froid avec lui cependant, et ne connut plus jamais l'étreinte du fantôme. Cependant, Hubert de Quercy vivait dans son château plus solitaire qu'une châtelaine du Moyen-Âge. Quand il allait prendre le train à la station, il regrettait, bien qu'il ne lui eût jamais parlé, que la bizarrerie des lois ne permît pas d'épouser le chef de gare. Peut-être, bien qu'il fût très entiché de noblesse, eût-il passé sur la mésalliance, et il aurait voulu pouvoir changer de résidence quand le lieutenant-colonel qu'il apercevait à la manœuvre partait pour une autre garnison. Ses plaisirs étaient de descendre parfois de la tour du château où il s'ennuyait comme Griselidis, et d'aller, après mille hésitations, à la cuisine dire au boucher que le dernier gigot n'était pas assez tendre, ou d'aller prendre lui-même ses lettres au facteur. Mais il remontait dans sa tour et apprenait la généalogie de ses aïeux. Un soir, il alla jusqu'à remettre un ivrogne dans son chemin. Une autre fois, il arrangea sur un chemin la blouse défaite d'un aveugle. Il vint à Paris. Il était dans sa 25e année d'une grande beauté, spirituelle pour un homme du monde, et la singularité de son goût n'avait pas encore mis autour de sa personne ce halo trouble qui le distinguait plus tard. Mais Andromède attaché à un sexe pour lequel il n'était point fait, ses yeux étaient pleins de nostalgie qui rendait les flammes amoureuses, et tandis qu'il était un objet de dégoût pour les êtres dont il s'éprenait, il ne pouvait partager pleinement les passions qu'il inspirait. Il avait des maîtresses. Une femme se tua pour lui. Il s'était lié avec quelques jeunes gens de l'aristocratie dont les goûts étaient les mêmes que les siens. Qui pourrait soupçonner ces élégants jeunes gens, aimés des femmes, de parler à cette table de plaisir que le reste du monde ne comprend pas? Ils détestent. Ils invectivent ceux de leur race et ne les fréquentent point. Ils ont le snobisme et l'exclusive fréquentation de ceux qui n'aiment que les femmes. Mais avec deux ou trois autres aussi décrassés qu'eux, ils aiment à plaisanter, à sentir qu'ils sont de même race. Parfois, quand ils sont seuls, un mot consacré, un geste rituel leur échappe, dans un mouvement d'ironie volontaire, mais de solidarité inconsciente et de plaisir profond. Ceux-là, dans un café, seront regardés avec crainte par ces lévites barbus qui, eux, ne veulent fréquenter que ceux de leur race par peur du mépris, bureaucrates de leur vice, exagérant la correction, n'osant sortir qu'en cravate noire, et regardant d'un air froid ces beaux jeunes gens en qui ils ne peuvent soupçonner des pareils, car si l'on croit facilement ce qu'on désire, on n'ose pas non plus trop croire ce qu'on désire. Et quelques-uns de ceux-là, par pudeur, n'osent répondre que par un balbutiement impoli au bonjour d'un jeune homme, comme ces jeunes filles de province qui croiraient immoral de sourire ou de donner la main. Et l'amabilité d'un jeune homme jette en leur cœur la semence d'amour éternel, car la bonté d'un sourire suffit à faire éclore l'espérance, et puis ils se savent si criminels, si honnis qu'ils ne peuvent concevoir une prévenance qui ne serait pas une preuve de complicité. Mais dans 10 ans, les beaux jeunes gens insoupçonnés et les lévites barbus se connaîtront, car leurs pensées secrètes et communes auront irradié autour de leur personne ce halo auquel on ne se trompe pas et dans lequel on distingue, comme la forme rêvée d'un éphèbe, le progrès interne de leur mal inguérissable aura désordonné leur démarche. Au bout de la rue, où on les rencontre, dressant d'un air belliqueux des hanches féminines, prévenant à force d'impertinence le mépris supposé, masquant et redoublant, par une feinte nonchalance, l'agitation de manquer ce but dont ils se rapprochent moins vite en feignant de ne pas le voir, on apercevra toujours une tunique lycéenne ou une crinière militaire, et les uns comme les autres, on les voit avec l'œil curieux et l'attitude indifférente des espions rôdés autour des casernes. Mais les uns et les autres, dans les cafés, où ils s'ignorent encore, fuient devant la lie de leur race, devant la secte porte-bracelet de ceux qui, dans les lieux publics, ne craignent pas de serrer contre eux un autre homme, et relèvent à tout moment leurs manchettes pour laisser voir à leurs poignets un rang de perles, faisant lever et partir, comme une odeur intolérable, les jeunes gens qu'ils pourchassent de leurs regards tour à tour, provoquants et furieux, les lévites et les élégants qu'ils désignent de rire efféminé et de gestes équivoques et méchants. Cependant que le garçon de café indigné, mais philosophe, qui sait la vie, les serre avec une politesse irritée ou se demande s'il va falloir chercher la police, mais en empochant toujours le pourboire. Mais parfois, comme le désir d'un plaisir bizarre peut éclore une fois dans un être normal, le désir que le corps qu'il serrait contre le sien eût des seins de femme pareils à des roses de Bengale et d'autres particularités plus secrètes le hantait. Il s'éprit d'une fille de haute naissance qu'il épousa, et pendant 15 ans ses désirs furent tous contenus dans le désir d'elle comme une eau profonde dans une piscine azurée. Il s'émerveillait comme l'ancien dyspeptique qui, pendant 20 ans, n'a pu prendre que du lait, qui déjeune et dîne tous les jours au café anglais comme le paresseux devenu travailleur, comme l'ivrogne guéri. Elle mourut, et de savoir qu'il connaissait le remède au mal, lui donna moins de crainte d'y retourner. Et peu à peu, il devenait semblable à ceux qui lui avaient inspiré le plus de dégoût. Mais sa situation le préservait un peu. Il s'arrêtait un moment devant le lycée Condorcet, en allant au club, puis se consolait en pensant que c'était sur son bateau que le duc de Parme et le duc de Gênes iraient assez. Parce qu'il n'y avait tout de même pas de grand seigneur français qui eût une situation aussi grande que la sienne, et que probablement, à cause de cela, le roi d'Angleterre viendrait y déjeuner.